Salut, c'est Fred Testo. Avec le journaliste Mohamed Bouafsi et l'addictologue Laurent Carilla, on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Si je vous dis qu'on peut toujours se refaire au pari sportif après une perte, vous me dites...
Quand on perd, c'est tentant de rejouer pour se refaire.
Professeur ?
C'est une des étapes caractéristiques du jeu problématique, en fait. Le gain, la perte, l'espoir de se refaire, le désespoir. Vouloir se refaire après une perte, c'est humain, mais c'est là que commencent tous les problèmes.
Décidément, parier, c'est pas rien.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Extra. Le roster du jour est composé de Xavier Vaution et Jacques Ponclard. Bonjour messieurs.
Salut.
Bonjour à tous, bonjour Baptiste et le X-Man. Salut.
Allez, on commence tout de suite à dérouler les affiches de ces demi-finales de conférence avec les matchs de la nuit derrière. Et Dallas qui est venu reprendre l'avantage du terrain à Oklahoma City, qui mène désormais 3-2 avec un Luka Doncic régnant, auteur d'un nouveau triple-double et qui est en train de gagner son duel face à Shai Gilgeous-Alexander. Vous êtes d'accord là-dessus ?
Non. Qu'on peut...
C'est clair au moins.
C'est pas tout à fait ça. C'est... Encore une fois, moi, il faut jamais réduire à deux joueurs. Il y a un effectif à Dallas qui s'est tellement renforcé qu'aujourd'hui, c'est un effectif qui paraît être supérieur à l'effectif de Casey. Ils sont quasiment jamais face à face chez et Luka. Dallas a cette possibilité aussi que quand Luka n'est pas là, t'as Irving qui arrive et qui mène le jeu et qui le fait super bien. Donc, je pense que le combat est en train d'être mené, gagné par Jason Kidd et son équipe contre Mark Daniel et son équipe. Je pense que je partirais plus là-dessus, personnellement, plutôt qu'à deux joueurs face à face.
Bien sûr. Non, mais c'est toujours
même si, Xavier, je pense que dans l'histoire de ces deux jeunes gens qui ont tous les deux à la fois, ils sont jeunes, ils arrivent dans le prime, cette série restera entre deux franchises qui montent en même temps. Dallas traînait sans vraiment s'éclater et là depuis le trade c'est une équipe de très haut niveau et OKC a une progression cette année un peu supérieure mais on les attendait dans le développement et entre Shea et Luka deux franchises voisines hein, deux franchises même conférence pas même division déjà
pas loin je suis complètement perdu en division mais ils sont certainement dans la même division
South West
ouais.
Bref, donc une rivalité, oui, ça restera dans leur truc. Après, Xavier a raison, c'est un truc d'équipe. Après, sur le fait que Dallas soit beaucoup mieux équipé, oui et non, parce que Tim Hardaway revient de blessure, parce que c'est le cas de Josh Green, mais que oui, Luka et Shea sont ceux qui impulsent le jeu, même si le côté lieutenant, même si depuis deux matchs il est un peu absent, enfin un peu différemment présent, on va dire. De Kyrie, ouais, mais il y a un vrai affrontement avec déjà des victoires chez l'un, chez l'autre, et maintenant un match 6, la tête sur le bio ou le dos au mur, comme vous voulez, pour OKC. On va voir si cette équipe, il faut qu'elle se gagne le droit d'avoir son match 7. Voilà.
Ça va pas être simple. Mais bon. Ils ont été gagnés au match précédent.
Dallas a pris la main, clairement.
Ouais. Ah oui, il allait gagner à Oklahoma, c'est quand même...
Deux fois.
Ouais, c'est quand même
deux
fort.
Fois.
Et en plus, je voulais revenir sur ce que Doncic avait dit à la fin du match. C'est quand même important. Il dit qu'il a retrouvé le sourire, qu'il s'est refocalisé sur le jeu. Et on avait l'impression que c'était plus le cas depuis le début de la série, qui ronchonnait souvent face aux arbitres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Ça oui. Ça, pour ronchonner, il n'y avait pas un tir qui était pris au match précédent sans qu'il y en ait un qui râle à l'arbitre. C'était incroyable. C'était presque caricatural, en fait. On sait qu'en plus, il a un peu mal partout. On l'a encore vu avec son épaule hier soir. Mais effectivement, par rapport au Luka du match précédent, là, on l'a complètement retrouvé. Il a été régnant. Il a été parfait hier soir. Donc oui, on a bien l'impression qu'hier il s'est bien amusé et que la confiance aidant, oui, il est bien plus heureux ce matin que ce qu'il était hier matin, c'est sûr.
Dès qu'il remet 2-3 paniers extérieurs, il a le sourire qui est différent. Il passe de narquois à naturel. Luka vit dans le drama. Il a besoin d'avoir des bobos, il a besoin d'avoir un os à ronger, il a besoin de contester. Alors c'est une ligne de faute, c'est une ligne dangereuse, mais c'est lui. Il est comme ça. Je vais pas dire que c'est la comédia dell'arte, mais il y a une partie chez lui comme ça, d'extraverti. Moi, il me fait penser, pour les gens de génération d'avant, hein, au plus grand... Ouais, plus grand joueur de l'ex-Yougoslavie, Drazen Petrovic, qui était un peu comme ça tout le temps, à droite, à gauche, arbitre, coaching, public, balayeur. Il va se mêler de tout. Il est comme ça. Mais il est génial. Et de l'autre côté, j'adore la froideur de Shea, cette capacité à se créer des shoots dans le trafic, etc., etc. Pour moi, la bascule, elle est plus, Xavier, pas tant sur la longueur d'effectif que sur la capacité de Lively et Gafford, qui à eux deux cumulent un 21-14, là, encore aujourd'hui.
En se partageant parfaitement
le temps de jeu. Par rapport à Holmgren, qui est vraiment un peu seul sur son poste.
Ouais, complètement.
Voilà, voilà. Pour le reste, la baisse de régime de Jalen Williams... Hein, parce que lui, il avait fait une bonne fin de saison. Là, il change, il met Isaiah Joe dans le 5. Pourquoi ? Parce qu'il veut des points,
veut
des défenses sur Kyrie, sachant qu'il en a déjà. T'as déjà un mec pris par Lucas, et quand je dis un, je suis gentil. Mmh. Tu vas défendre en étant fermé sur Lucas, en laissant de la place aux quatre autres, donc à Kyrie Irving. Ce qui est toujours un problème. Et puis t'as pas de bol, t'as Derrick Jones Jr. qui te fait le match de sa vie à un 5 ou 6 sur 6 en première mi-temps. Donc voilà, ils ont dominé le match, les Mavs.
De la tête et des épaules, il n'y a rien à dire. Rien à dire.
Et on parlait des ajustements de Mark Degno, on a l'impression à chaque fois que Chet Holmgren... il pourrait avoir plus le ballon. Est-ce que c'est pas là qu'il faudrait peut-être...
Ça, c'est pas à moi de le dire. Il a certainement ses raisons dans ce qu'il fait. Il y a quand même des postes à pointer du doigt. Si OKC se fait sortir, je pense que c'est assez clair de voir où sont les problèmes dans cette équipe-là. Josh Giddey est complètement absent. Il a disparu de la circulation, exactement. Mais ceux qui prennent sa place aussi, c'est tout le problème. Il y a une base de 3 qui semble évidente, entre Shea, bien sûr, Williams et Chet Holmgren qui va progresser. C'est un rookie, faut surtout pas oublier ça. Mais pour le reste, oui, il y a un petit peu de boulot et ils ont vraiment de quoi faire. C'est pas très grave. C'est une équipe qui est jeune, qui est là où elle devrait être. S'ils perdent là, c'est pas la fin du monde. Mais il y a une base de travail et de réflexion qui est assez logique et évidente.
On va rajouter Lou Dort, hein, qui est une des armes.
Bien sûr, j'oublie Lou Dort.
C'est aussi à cause de lui que Lucas a souvent ronchonné.
C'est peut-être une des clés du match aussi. C'est pour ça qu'au départ, oui, bien sûr, elle restera dans l'opposition Shea-Lucas. Mais la série, elle est partout, sur plein de postes, à plein d'endroits. Le boulot de PJ Washington en poste 4 sur Jalen Williams. On aurait pas obligatoirement misé, qui a un avantage, en tout cas pour l'instant clair, pour PJ Washington sur le poste en début de série. Donc, idem pour Derrick Jones, qui fait des choses. Alors, lui, il navigue sur deux postes. Mais bon, vraiment, enfin...
Il n'a jamais été aussi fort, lui. Hein. Il est incroyable, Derrick Jones. Ouais. Ils ont réussi à en faire un joueur.
Mais je pense que c'est un développement qui date d'un moment. C'est-à-dire qu'à Miami, il avait beaucoup après. Ça a été un crève-cœur pour eux, pour lui, tout ça. Il avait été à Memphis ou je ne sais plus où.
Portland,
oui.
Donc où il avait été.
Oui, mais ça lui a permis de se reposer, de se soigner. Et puis là, cette année, quand on a appris à jouer au basket, jouer à côté de Kyrie Irving et Luka Doncic,
ça peut aider.
Tu peux te trouver un rôle. Si tu sais te placer, si tu es intelligent. Tu mets Josh Green ailleurs, c'est pas dit qu'il va être bon. Moi, je l'ai vu avec l'Australie, il était pas bien bon. Enfin, pas bien bon, pas un joueur supérieur.
Et là, il est bon sur la série.
Et là, il est très bon sur la série.
C'est le panier qu'il faut.
Voilà, y a
je crois qu'il
rôles.
Met qu'un seul panier à 3 points cette nuit, mais c'est un panier à 3 points ultra important au moment où ici commence à faire un semblant de retour.
C'est là où les équipes fonctionnent pas pareil, où les fans peuvent comprendre facilement la différence qu'il y a entre la saison régulière et les playoffs. C'est qu'en playoffs, il y a besoin de rôles. Et que des rôles défensifs, des rôles de conservation du ballon, des rôles de fixation, des rôles de shooter exclusif, des rôles que... qui sont pas obligatoirement utilisés de défense, bien sûr, souvent en saison régulière, là, le sont. Et t'as des mecs qui apparaissent et qui te donnent un niveau supérieur. Ça fait rigoler tout le monde. Alors, je trouve que Fred Veil s'en fait beaucoup, mais bon, c'est une plaisanterie. Un mec comme Luc Cornette.
Ouais.
Luc Cornette.
De Boston.
Très franchement, j'ai pas envie de rentrer dans les comparaisons que j'ai en tête, mais bon, il y en a d'autres, des Luc Cornette. Et ben lui, par son intelligence, par sa être dans le truc, et tout, il arrive à être utile. Mmh. Et on est en demi-finale de conférence, 7 sur un parcours billard. Le green est ouvert, ils vont faire un birdie pour sortir de la conférence. Je parle des Celtics. Mais Luc Cornette est utile. Voilà. Alors que je pense pas que Xavier Vaution et ses petits camarades, quand ils jouent à la fantasy pendant l'été, pendant l'hiver, ils se battent pour avoir Luc Cornette. Je ne
confirme.
Joue pas, hein, mais je demande à Xavier.
Non, je confirme. Par contre, je me suis bien battu pour avoir Jason Tatum. Ça va. Bon, j'ai fini troisième, mais... Merci Wahbi Khazri pour ce trade scandaleux. Mais ouais, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Mais bon, on était sur la série de Dallas.
Et c'est pour ça qu'on aime... On va en venir aussi.
Regarde Kleber l'autre fois, qui change la série.
Ouais, eh oui.
Parce qu'au match 2, là, quand ils ont la tête un peu... Hein, ils se sont fait châtier au 1 dans la fin de match, Dallas, c'est Kleber qui les remet en route.
Mais c'est ce qui manque à Oklahoma, d'ailleurs. C'est un joueur qui... On n'a pas eu un joueur comme
ils
ça
ont essayé,
qui...
Je pense que quand il prend, quand Sam Presti prend Gordon Hayward...
C'est ça, exactement.
Il se dit, je vais trouver le mec qui va mener le petit plus d'expérience à ce niveau-là. Et ça n'a pas fité avec Marc Desnieux, hein, ou avec les autres joueurs.
On aurait pu s'en douter.
Ils ont
J'étais vraiment très surpris de
voir. C'est un risque qui coûte pas cher.
Mais voilà,
ça lui a coûté que 17 tours de draft. Il y en aurait encore 74, donc il est au chaud.
Oui, ouais, parce que c'est pour ça, quand je dis que cette équipe a un avenir qui est... Plutôt serein, c'est avec tout ça, bien sûr, parce que tu peux faire des trades dans tous les sens, tu peux piquer qui tu veux, enfin, voilà.
Mais comme disait
Rémi, si reste l'avenir.
Comme disait Rémi, en Oklahoma, il n'y a pas d'équipe pro, il y a une grosse culture de sport universitaire, bien sûr, football, mais un peu basket aussi, c'est Trae Young qui est passé là-bas, je crois que c'est ça. Voilà. Et cette équipe est en train... Il y a eu le phénomène Durant, Harden, Westbrook, Ibaka, Patin, Couffin, finale. Et puis, pas loin de tout, hein, quand même, à ce moment-là. Et puis, une petite traversée de désert, mais surtout une reconstruction. Alors là, dans le fameux débat qui plaît à tant, est-ce qu'on construit par la draft? Est-ce qu'on construit par ceci, cela? Or, chez Gilgous, tous les autres, c'est par la draft, hein, je crois.
Faudra que je vérifie ça, mais on ne doit pas en être loin, ouais.
Ouais. Non, c'est un modèle de reconstruction.
Shea a coûté...
Il a coûté cher, surtout. Il a coûté cher chez... aux Clippers. Hein, Xavier? On l'avait vu venir, nous, hein.
Ah, mais j'étais dévasté quand il est parti de... Quand il est parti des Clippers. J'ai dit, s'il y en a un seul qu'il ne faut pas trader là-dedans, c'est lui. Ben voilà. Voilà pourquoi.
C'est clair.
Voilà pourquoi ce sont les Clippers.
Oui, aussi.
Bon, en tout cas,
c'était pour Paul George, hein, pour les gens qui nous équipent.
Oui, oui.
C'était dans le trade de Paul George qui, à l'époque, était... Et donc, enfin, bref, il est Paul George. Voilà.
Il est éliminé, en tout cas.
Oui, aussi. Oui.
Shea. Et Shea ne l'est pas. Hein. Il reste quand même possiblement deux matchs. Match 6 dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Et match 7, peut-être, dans la nuit de lundi à mardi. On passe aux Celtics qui jouaient aussi hier soir et qui sont les premiers qualifiés en finale de conférence, sans grande surprise, même si voilà, ils ont lâché un match contre Cleveland. Finalement, c'est du cruise control un peu pour Boston, même si on les attend un petit peu plus convaincants.
Convaincant parce qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont pris deux roustes, une contre Miami, une contre Cleveland, dans un moment où... je pense qu'ils savaient de toute façon que la série, elle aurait été déjà quasiment assurée. Tu joues Miami sans Jimmy Butler, quand tu joues les matchs contre Cleveland sans Donovan Mitchell, sans Jarrett Allen, donc il faudra quand même qu'on m'explique à quel moment Jarrett Allen a eu des chances de revenir. C'est archi faux, il n'a jamais eu de chance de revenir. Ils ont essayé de nous le faire croire, mais bon, on a quand même bien compris qu'il ne reviendrait pas. Évidemment que ça déroule.
Et heureusement que ça déroule. Hier soir.
Et sans Caris LeVert hier soir. Enfin bref, hier soir, tu te tu te poses devant le match, tu vois ça, bon bah allez, c'est bon, je vais me coucher, je me réveille dans deux heures. Non mais c'est, quelle chance pouvait avoir Cleveland contre Boston comme ça? Parce que je veux bien qu'il n'y ait pas Porzingis, mais là c'est pas possible.
Donc
là,
ils ont tenu, il va y avoir...
Ouais,
on a vu Tristan Thompson revenir.
Ouais, Marcus bon, Morris voilà. qui fait un match incroyable hier soir. D'accord, mais à quel moment dans le match tu penses que Cleveland va pouvoir aller le prendre? Franchement, aucun. Boston déroule, bien sûr qu'il déroule. Et on verra contre qui vont jouer en finale de conf.
Ouais, 43-28 au rebond. Hein, donc ils étaient quand même...
43-28 au rebond hier soir?
Ouais. Par contre, alors Boston est plus fort. Boston a plusieurs problèmes devant eux. D'abord, c'est avoir une équipe stable avec Porzingis. Il faut vite le retrouver pour retrouver du rythme. Finale de conf, ils ont encore de la marge, mais après, ils vont rentrer quand même. On va me dire, de l'autre côté, ils vont être fatigués. Alors, ça marche pas comme ça, la NBA. Vous savez ce qui me gêne hier? 80 tirs, 43 tirs à 3 points.
Ah oui, les Celtics.
Ils sont dans 19 sur 43, ce qui est très bien. Hein. Mais quand même, c'est un paramètre, ça. Alors oui, ils ont une marge terrible sur toutes les équipes. Déjà parce qu'ils ont gagné 64 matchs en saison régulière. Ensuite, parce que, bon, en face, eux, ils ont Porzingis out. Mais les autres, en face, là, ils en avaient 3. Le coup d'avant, bon, Butler, il était quand même comme un clignotant sur l'alternatif. Et puis après, il était comme un encéphalogramme plat. Et qui s'est fait aplatir par Pat Riley récemment. voilà, donc on ne sait pas trop. Alors on va me dire, il garde des forces. Mais justement, non, parce qu'à chaque fois... Alors, je trouve que Mazzulla laisse aux adversaires... le coaching, sans hurler, hein, sans quoi ou qu'est-ce, c'est parfois aussi être vigilant sur les prises de temps mort ou d'arrêter de jeu, non pas sur le score, même si là, je trouve qu'il est un peu lâche, il laisse des runs à l'adversaire, mais sur la qualité de ce que tu produis des deux côtés du terrain. Et je trouve qu'il ne les contrôle pas assez. Et que hier, on va magnifier à juste titre la performance d'Al Horford, qui est monumentale. On va dire que Tatum est très fort. Mais ouais. Alors, ils sont en finale de conf. Ils sont plus forts que tout le monde sur la saison régulière. Mais je leur donne quitus, des bonnes prestations de Pritchard. Je trouve que Jaylen Brown est un peu trop électron ligne de Derrick White, qui a un autre niveau, que Jrue Holiday, qui est un vrai joueur fantastique, de Tatum, qui est un leader, qu'Al Horford, que j'admire. Mais je tourne en rond. Je vois plus de... Alors, ça vient peut-être de l'opposition. Je vois plus de choses à l'ouest, là.
Je pense que ça vient de l'opposition. J'ose espérer que ça vient de l'opposition. Mais moi, c'est pareil. Je ne regarde plus que la conférence Ouest. Je dis,
je regarde l'Enix, moi.
Oui, bien sûr. C'était trop vite plié. Non, mais Boston déroule. Et c'est vrai que la vraie adversité, peut-être, n'arrivera qu'en finale NBA.
Déjà, ils sont plus forts.
Peut-être. Hein,
et en plus, c'est une armée. Ils ont des mecs, c'est un hôpital sur pattes qui jouent à chaque fois. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de leur faute. Mais dans la manière, dans le contrôle coach, alors très bien, ça peut aller au bout. J'ai l'impression qu'ils sont dans l'autogestion, moi.
Ça ressemble, ouais, je suis d'accord.
Et justement, avant de parler des finals, il y a les finales de conférence qu'il faudra passer. Ça fait 5, là c'est la 5e qualification du duo Tatum-Brown. Vous me voyez venir. Voilà, il y en a quand même
après
pas
la
beaucoup
première, la question était posée. Après la... Si, il y en a qui ont été posés en 2022, ils ont gagné.
Bah, c'est la seule.
Voilà. Bon.
C'est la seule.
C'est la seule. Qu'est-ce que je te dis? Tout le monde dit avec Tatum et Brown, eh ben, écoute, ils ont pris cette option. Je constate que Brad Stevens a été élu Executive of the Year. Faudrait savoir pourquoi remettre en question ce choix puisqu'il est fait par l'exécutif de l'année. Et ils les ont re-signés et pour pas trois pommes vertes. Hein. Bon, donc, ils sont là. Il faut qu'ils raisonnent. Hein. Comment gagner avec Tatum et Brown? Comment et arrêter de dire leader? Il y a eu un Larry Bird, il y a eu des joueurs emblématiques. Tatum en fait partie, mais arrêtons les comparaisons. Et surtout que Kristaps Porzingis revienne. Oui. Surtout. Surtout.
Il reste dans le flou aussi.
Pourquoi on a ce discours qui est à la fois Moi, je respecte leur niveau, je suis sûr qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires, mais je suis pas sûr. D'abord, la longueur de banc, parce que Samhauser, Pritchard, Cornet, ça reste fragile. Xavier Tillman, ça reste inconnu presque, il a fait un match. Bon, si Porzingis est là, on a quand même Horford qui sortira du banc, ou sur en fonction d'eux, ou d'Eric White, ou un joueur de très haut niveau, quoi qu'il en soit. Mais c'est pas non plus une armée. Denver leur irait bien, la force physique de Minnesota leur irait moins bien.
Dallas, je les vois.
Dallas, ça se ressemble un peu, hein, ça shoot externe et tout. OKC est une match-up qui leur irait très très bien, parce que Porzingis, Holmgren, bref, des tas de choses. Mais voilà, après, est-ce qu'ils ont le remède anti-joker là-dedans s'ils vont en finale? J'en sais rien. On va voir les finales de conf qui sont là devant eux. Les Knicks, ce serait un combat en fonction des guerriers qui restent aux Knicks, sachant que maintenant qu'ils ont arrêté, ils vont récupérer après probablement le match 7, on verra 6 ou 7, 48 heures après, ils auront à la maison, là, ils auront une belle opportunité de prendre un avantage directement dans la série. On a vu qu'à chaque fois qu'ils font ça, qui prennent un avantage au premier, sur les deux premiers rounds, ils ont perdu le deuxième. Voilà, il faut qu'ils soient, je pense qu'ils sont pas encore en mission. Ils y sont par moment. C'est pour ça que j'aime pas l'appellation « ils contrôlent ». Parce que contrôler, c'est en mettre 20 et pas bouger, que ça revient ça. Pas à moins de 8, 10. Mmh. C'est pas ce qu'ils font.
C'était pas le carré.
C'est pour ça qu'ils parlaient de pas convaincant.
Je ne vais pas jusque-là.
Faut trouver le juste milieu.
Non, je ne vais pas jusque-là. Le sport n'est pas blanc, noir. Hein.
Bien sûr.
Il est souvent gris. Hein.
Bon, on parle justement de ces possibles adversaires des Celtics en finale de conférence à l'Est, avec des Knicks encore renversants. Ils n'arrêtent plus de nous surprendre. Alors qu'on les pensait éreintés, ils sont allés chercher le match 5. Jusqu'où ils peuvent aller? Encore
match
très loin.
Match 6.
Ça, c'est sûr. Plus.
Bien sûr.
Forcément, s'il y a match 6.
Bien sûr, plus. Je ne peux rien dire sur les Knicks. Non, mais c'est clair. Ils peuvent prendre une dérouillée à Indiana ce soir. Comme ils peuvent aller gagner. Il y a un cœur qui est tellement incroyable là-dedans. Il va falloir qu'Indiana soit très très fort ce soir pour gagner, à mon avis, parce que je pense qu'ils ont pris un sacré coup sur la calebasse au match 5. Maintenant, ça reste les Pacers. On a vu ce qu'ils étaient capables de faire il y a deux matchs aussi. On verra. Mais je pense que oui, les Knicks ont repris un avantage assez intéressant là-dedans, et que si match 7 il y a, ce sera à New York. Et quand on voit ce que c'est, je trouve que j'ai l'impression que le chemin me paraît bien compliqué pour Indiana aujourd'hui. Mais il y a tellement eu de surprises. On sait jamais sur quoi on va tomber.
Bon, c'est clair, ça ressemble à un match 7. Après, Xav a raison. Si Indiana est capable d'attaquer le match, de remettre le feu, de recréer de la confiance rapidement, sans ça, ils risquent de se faire emmener dans un match dangereux. Ça ressemble quand même à un match 7. Les clés, elles sont pour les Knicks. Hein, si je comprends cette posture-là, continuer à prendre des rebonds. Parce que, aussi bizarre que ça soit, quand ils les éclatent au rebond, ils gagnent. Limiter à Liberton et limiter Siakam. Ils peuvent prendre des points sur Turner, c'est moins grave. Ils vont en prendre sur Nembhard dans un coin, puisqu'ils vont donner de l'aide. Voilà, mais surtout le boulot de, vous vous rendez compte où on en est, de Hartenstein à Chua, qui sont la front line. Après les petits coups de raccourcir en taille avec McBride, qu'a fait, un peu comme a fait hier Mark Degno avec Isaiah Joe.
Ouais.
Isaiah. Bref, voilà, mais c'est passionnant, c'est génial, on se régale et pour Boston, ce sont deux profils totalement différents. L'un est batailleur autour d'un homme qui fait des playoffs absolument monumentaux et qui franchit un niveau dans la hiérarchie des joueurs, hein, ce que fait Brunson, tout le monde le voit et tout le monde l'admire.
Est-ce que justement, sans lui, on l'a vu au match d'avant, le match 4, Quand il est un tout petit peu en dessous, c'est là ça devient
idem,
vraiment compliqué.
Idem pour Taito. Idem pour tout le monde.
Papa et Indiana, par exemple, quand il y en a un qui...
Ouais, enfin, quand Haliburton tous, hein, c'est tout le monde qui a la fièvre. Hein.
C'est plus dur.
Et là, les Knicks ont un peu de bol, même si c'est pas pour ce match-là, mais pour les... globalement la série, c'est que le Fever fait ses débuts de saison avec Caitlin Clark et que ça a retardé le match de 24 heures, donc ça leur fait 24 heures de répit en plus, mine de rien, pour une équipe qui joue à 7,5.
C'est
ça peut... Oui, oui, tu prends tout. Tu prends tout, voilà, simplement... oui, on va pas raisonner sans un tel, sans un tel. Il est clair que, je veux dire, combien de fois, quand on faisait depuis qu'on fait les finales, et sans LeBron, ils auraient fait quoi, les Cavs?
Non, bien sûr.
Ils auraient été en play-off seulement? À l'époque, je suis pas sûr. Pas toutes les années, hein.
Non, mais ce qui est bien avec Brunson, c'est qu'il... Il en loupe quand même souvent. Il
oui,
quand même
moi j'ai poussé juste un match. Petit. Je veux bien. Là, Xav a parlé de Jarrett Allen. On voit le Vert, on voit les mecs Donovan Mitchell. Alors, on veut des contrats max. On fait des saisons régulières. Ok, on est All-Star. Ok. Mais quand ça se joue, faut jouer. C'est con ce que je dis. On va dire ah ouais, les mecs ils sont blessés, ils jouent trop. Non, mais là, il arrive un moment où il faut arrêter. Il arrive un moment où je pense que quand Kawhi n'est pas là au moment où ça se joue, quand KP est là, il faudrait qu'il revienne maintenant. Je ne parle pas de Randle, je parle pas de tous ces... Il y a des absents partout et les mecs, ça réclame après des contrats. Mais comment font les équipes? Comment font les proprios? Et comment font les fans?
Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de la suite de Cleveland, mais elle est bien...
Bien compliqué. Directement, il semblerait qu'entre Garland et Mitchell, la bonne entente était un fake. C'est ce qui semblerait ressortir. Mais enfin, ils me font rire, les mecs. Ils nous annoncent que Mobley avait pas été informé, que Jarrett Allen avait signé Patin, Couffin. Mais oh, laissez-les arriver. Il y aura un débrief de la franchise. Je pense que le premier dossier qu'ils vont gérer, c'est Bickerstaff.
Oui, c'est prévu déjà.
Voilà. Et puis après, on verra. Mais quand... arrêtons de sortir des... Alors, je sais que c'est bien le droit à l'info, mais diffuser comme elle est, ça n'a pas en vrille de partout. Laisse faire, ils vont débriefer. Et il faut arrêter de croire aux amitiés, au monde de bisounours. C'est un business, hein. T'aimes pas tout le monde dans ta rédaction. Eh ben, c'est pareil. Les mecs, il y en a qui ils aiment pas trop. Mais il y a... Voilà, mais il faut qu'ils jouent bien au basket ensemble.
C'est ça.
Voilà, comme tout le monde dans son boulot.
Faire des efforts.
Arrêtez de croire aux histoires enjolivées, des machins. Ah oui, 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 rien du tout. Il y a parfois des vraies amitiés, mais on peut en vivre une. A priori, Xav, les trois de Villanova, là, ils ont l'air potes.
Ah, apparemment, oui.
Bon, voilà, mais c'est rare.
On suivra ça. On passe à la dernière série, celle qui excite peut-être le plus de monde, les Nuggets contre les Wolves, et qui est aussi bien renversante, puisque Denver est remonté à 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0. Avantage aux Nuggets, même s'ils jouent à l'extérieur, Xavi
Justement, ils jouent à l'extérieur, donc jouer à l'extérieur, c'est bien apparemment dans cette série. Donc, je vois où tu veux en venir. Franchement, j'en ai aucune idée. De toute façon, là aujourd'hui, c'est do or die pour les Timberwolves qui n'ont absolument plus le choix. Et donc, enfin, gagner un match à domicile, ils sont quand même passés à côté d'un truc. Je veux dire, s'ils ne prennent pas la série, ils vont pouvoir s'en vouloir pendant un sacré moment. Quand tu as la possibilité de mettre le champion à 3-0, que tu ne le fais pas, tu te mets en danger. Et là, aujourd'hui, ils sont en danger. Et on a surtout le sentiment que Denver s'est complètement retrouvé. Enfin, même si je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment perdus, d'ailleurs, à un moment. Genre, 2-0, ils devaient avoir un petit doute. Mais c'est vite revenu, hein. C'est vite revenu. Mmh. Mais j'en sais rien. On verra ce qui va se passer ce soir. Je pense que j'ose espérer que Minnesota va le prendre pour nous lancer un match 7 de fou furieux. Mais... C'est tellement indécis. Après, Minnesota, en ce moment, oui, ça coince un peu quand même. Très, très compliqué. On revient à des moments où quelques joueurs se font découper dans tous les sens.
Là aussi,
alors que c'était des idoles à 2-0. Bref, ouais. On verra. Mais les Nuggets, en tout cas, on voit vraiment
plusieurs choses là-dedans. Hein, c'est que ça peut ressembler à un match 7 et que s'il n'y avait pas match 7, ce serait une immense déception pour les Wolves.
Ah oui.
Pourquoi ? Ils ont attaqué les playoffs, ils étaient à 6-0. Mmh. Et là, ils sont à 0-3. Mmh. Donc, s'il n'y a pas match 7, ça veut dire qu'ils auront fait 6-0-0-4. Et qu'il y aurait eu une coupure à plein d'égards. Moi, je trouve qu'il y a eu un vrai, pas affolement, mais pas loin, quand Jamal Murray jette la bouillotte, enfin le hitting pad, tout ce que tu veux, quand ce match-là,
ça, le twist,
le Joker de perdait des balles dans tous les sens, Aaron Gordon avait fait un match à 1 sur 10, pathétique, ils avaient la tête dans le sauce, 0-2. Et là, celui qui, à mon avis, impulse tout, au-delà du terrain, dans son communication, dans sa tranche, dans son attitude, c'est le Joker, c'est Nikola Jokic. Oui, et il s'est mis les trois babars sur les épaules, les trois ours en face, Nasrid, Rudy et Kat. Il en fait la misère, et il perd plus de balles, et il règne sur le jeu, et Gordon flambe, et Jamal Murray, en plus, s'est adapté à la défense, entre guillemets, canadienne, que lui offrait Nigel Alexander Walker. On va rappeler que sur le dernier match, en plus, il manque Mike Conley. Il faut jamais oublier l'importance dans la stabilité du mental d'une équipe de, et sur le terrain. Je parle mental sur le terrain parce que des capitaines de vestiaire, c'est une chose, mais les capitaines sur le terrain, c'est enfin, des mecs qui organisent, c'est autre chose. Oui, oui, c'est un peu mystérieux. Alors après, Denver est fort là. Denver est fort. Denver, Michael Malone a super bien lu le piège défensif que faisait la défense de Minnesota. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et puis, Carl Anthony Towns reste d'une irrégularité. Ce soir, s'il te fait 4 sur 7 à 3 points, tu vas gagner le match.
Mais ça, rapidement.
Ouais, il est quand même pas... Il n'est pas... Je sais pas. Enfin, bon, il n'est pas tout à fait ce qu'on pouvait espérer qu'il soit. Voilà. Quant à Rudy... Il faut qu'il fasse attention, parce que sur les 9 possessions où le Joker a attaqué sur lui dans le match 5, il a marqué 8 fois. Donc ça...
Il va falloir step up, là, voilà. Clairement.
C'est facile, hein, finalement. Hein, quand tu le dis comme ça. Hein, bah, il
dans
suffit.
Quel sens?
Il n'y a qu'un faucon. Il n'y a qu'un faucon. Hein,
je la connais bien, cette passion. Non, j'ai vu juste un... C'était les analystes américains de TNT qui ont montré ça pendant le match, en parlant des ajustements de Michael Malone, et en comparant le fait qu'il ait mis Aaron Gordon vraiment dans un... quasiment la clé de l'attaque de Denver.
Non, la finition. S'ils ont dit ça, ils ont dit une connerie.
Mais il comparait ça quand même à avoir du Pippen sur du Magic dans les finales 91, de faire rentrer...
Tu parles défensivement ?
Non, offensivement. Il parlait offensivement de... Et c'est vrai qu'il a quand même apporté quelque chose...
Parce que pendant l'année, t'as pas vu Gordon, c'est la destination préférée de Jokic. Juste dans les deux premiers matchs, alors peut-être qu'il diffuse que c'est là, deux matchs, j'en sais rien.
Je suis surpris qu'il s'en rende compte aujourd'hui, en fait. Non, on a vu ça toute la saison.
Ils ont fait ça toute la saison.
C'est pour ça que je voulais vous en parler, moi ça m'a aussi...
Ils ont fait... C'est pas la clé, c'est le bout de chaîne. Bien souvent, de la relation avec Jokic, avec Murray, et particulièrement, et beaucoup d'équipes l'utilisent, Boston aussi d'ailleurs, sur la ligne de fond, Jrue Holiday se balade souvent, il est sur la ligne de fond, en haut, en bas, en plus avec du rebond, bon, très bien, mais pas la clé, le bout de chaîne et l'efficacité, oui, sachant que...
Je pense que c'était plus
Joker
aussi
la clé.
Par rapport à Jamal Murray, il avait plus, en tout cas, de ballon, peut-être. On le voit moins.
Ils ont le droit de pas dire que la Bible, hein, moi non plus, d'ailleurs personne. Mais je vois pas bien ce que tu as traduit là. Ce que je sais, ce qui est.
Ça m'a paru surprenant. C'est pour ça que je voulais vous en parler. On préfère peut-être écouter vos analyses.
Non. Je parle pas de ça. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais c'est pas la clé. C'est une efficacité. C'est un bout de chaîne. Ouais. C'est pas lui qui crée. La clé, c'est ce qui crée. Quand tu ouvres une porte, c'est la clé qui ouvre, qui crée l'ouverture. Et ben, on sait où aller. C'est un, le Joker, deux, Murray. Et après, effectivement, Gordon, il est partout. Là, ils arrivent à gagner, Xav, en ce moment, avec Porter, pas trop là.
Ouais. C'est vrai.
Donc, ça aussi, c'est une marge de progression.
Ouais, ils en ont quand même pas.
Alors que quand ils ont perdu, c'est lui qui avait le mieux résisté. Ouais. C'est marrant. Hein.
Bon, on suivra ça et possiblement un match 7 dans la nuit de samedi à dimanche. Le Knicks Pacers aussi, un match 7 dimanche soir à 21h30, celui-là, si on peut l'avoir sur les antennes de BeIN.
S'ils peuvent se qualifier direct, c'est pas plus mal. Bon. Je plaisante. Non, je plaisante pas.
Bon, en tout cas, on suit ça dans NBA Extra aussi.
Juste un truc, hein, s'il y a un match 7, c'est dimanche soir. Minnesota-Denver. Non, t'as dit samedi soir.
Ah, pour le Minnesota-Denver ?
Ouais, Minnesota-Denver, ce serait dimanche soir et potentiellement à 21h30.
Ok, bah, j'ai pas les
pour l'instant, c'est Pacers-Knicks, match 7 à 21h30. Donc, s'il y a un seul match 7, ce sera Timberwolves-Nuggets à 21h30. Pour Dallas, le match 6.
Et si on a deux, ce
c'est
sera
samedi
Knicks.
Soir. Et si on a deux, ce sera les Knicks à 21h30.
Et ça leur évitera de faire jouer Minnesota-Denver sur un match à 2h de l'après-midi, quoi.
C'est ça. Mieux servi que voilà. Par le boss. Merci. En tout cas, on suit ça et on vous dit à très bientôt aussi sur le podcast. Salut.
Bonne journée.
Ciao, ciao. Oh my goodness, my goodness. Ce mec-là, il faut l'enfermer. C'est pas possible. C'est pas possible.
Salut, c'est Fred Testo. Avec le journaliste Mohamed Bouafsi et l'addictologue Laurent Carilla, on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Si je vous dis qu'on peut toujours se refaire aux paris sportifs après une perte, vous me dites...
Quand on perd, c'est tentant de rejouer pour se refaire.
Professeur ?
C'est une des étapes caractéristiques du jeu problématique, en fait. Le gain, la perte, l'espoir de se refaire, le désespoir. Vouloir se refaire après une perte, c'est humain, mais c'est là que commencent tous les problèmes.
Décidément, parier, c'est pas rien.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.